Le dispositif Sud Relance élargit la province, met en place le prêt d'honneur Sud Relance, un prêt à taux zéro pouvant atteindre 5 millions de francs. Après Philippe Michel, ce matin, c'est Philippe Gomez qui est entendu par la justice. Cet après-midi, 5 cadres de Calédonie Ensemble sont devant la cour d'appel pour l'affaire des contrats fictifs. Quel bilan pour la nouvelle équipe municipale du Mont d'Or après 100 jours d'exercice? La maire et ses équipes ont fait le point sur les 12 mesures prioritaires. Du sport avec un événement dimanche au parc de la Rivière Bleue, la seconde édition du Néo Raid Aventure. 60 équipes seront au départ. Et puis un tournoi sportif ce mercredi au PLGC à l'occasion du départ à la retraite du proviseur du lycée La Pérouse, Gilles Ukewe. 200 jeunes étaient réunis. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la province Sud qui adapte son dispositif Sud Relance. Elle propose un nouvel outil de financement qui est baptisé, Elisabeth Noir, le prêt d'honneur Sud Relance.
Le prêt d'honneur Sud Relance est présenté comme un nouvel outil pour la relance économique. Il est destiné à répondre aux besoins des entreprises dont les projets d'investissement sont relativement modestes. Ce nouvel outil de financement permet en effet d'accompagner des projets compris entre 2 et 10 millions CFP. Au travers d'un prêt qui peut aller jusqu'à 5 millions de francs et qui est remboursable en 7 ans maximum. Les précisions de Raphaël Larvor, il est directeur de la direction du développement économique et du tourisme à la province Sud.
Ce n'est pas un nouveau dispositif, c'est le complément finalement d'un dispositif qui était calibré pour des moyennes entreprises. Ce que l'on propose là, c'est de s'adresser davantage aux travailleurs indépendants et aux TPE, aux très petites entreprises, donc avec des montants de prêts qui sont inférieurs à ceux que proposait depuis quelque temps maintenant le prêt Sud Relance. Ce sont des prêts qui sont compris entre de 1 à 5 millions, là où dans l'ancien dispositif, qui continue toujours, mais c'était de 6 à 36 millions. Donc vous voyez, ce n'est pas la même dimension, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Donc il y avait manifestement une lacune, et donc on la comble. C'est tout simplement pour s'adresser encore davantage aux petits artisans, aux petits entrepreneurs, y compris les travailleurs indépendants.
Ce nouvel outil prêt d'honneur vient donc compléter le dispositif Sud Relance qui a été lancé fin 2025 et qui a déjà permis de mobiliser près de 368 millions de francs en faveur des entreprises de la province Sud. Et cela au travers de 24 projets accompagnés et de 153 demandes déposées. Le prêt d'honneur Sud Relance concerne donc des investissements plus modestes ou tout simplement des besoins en fonds de roulement.
On est davantage dans les besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire en fait des besoins de liquidité. Parce que c'est ce qui nous remonte du terrain. C'est pas forcément pour faire de l'investissement, ça peut être pour faire des achats d'investissement, mais c'est plutôt orienté besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire de l'argent rapidement disponible pour par exemple acheter des marchandises, pour fabriquer, pour produire.
J'ajoute que ce nouvel outil de financement est un prêt à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt, mais comme Sud Relance, c'est un dispositif un pour un.
Comme le prêt Sud Relance traditionnel, le prêt d'honneur Sud Relance, en fait, c'est un produit qui est associé forcément à une autre provenance de fonds complémentaire à ce prêt. C'est-à-dire que c'est un pour un. Si le prêt est de 2 millions, il faudra que l'entrepreneur soit capable d'apporter lui aussi 2 millions en complément. Ces 2 millions, ça peut être de l'autofinancement, mais ça peut être aussi un prêt bancaire, traditionnel celui-là, auprès d'une banque locale.
Le prêt d'honneur Sud Relance est développé en partenariat avec le réseau Initiative Nouvelle-Calédonie. Et si vous êtes intéressé par ce dispositif, il faut aller tout simplement sur le site de la province Sud où vous trouverez le formulaire de demande de ce prêt d'honneur.
Et notez que les élus de la province Sud seront réunis demain matin à partir de 9h en séance publique dans la salle du conseil municipal de la mairie de Nouméa. Il s'agira de la première séance depuis l'installation du nouvel exécutif. C'était le 3 juillet dernier. 3 délibérations sont inscrites à l'ordre du jour. L'approbation du règlement budgétaire et financier de la collectivité. Une délégation de pouvoir à la présidente de l'Assemblée en matière de marché public. Ainsi que la désignation des représentants de la province au sein de différents organismes et instances. On reparle des projets financés par l'État dans le cadre de la deuxième vague du projet et du plan de relance de l'économie calédonienne. On le rappelle, ce sont 10 milliards de francs qui vont être injectés dans 50 projets au profit du territoire. Focus aujourd'hui, Michael Juneski, sur un projet concernant la filière CERF.
Oui, depuis 2023 déjà, le Congrès et les provinces Nord et Sud ont engagé les démarches pour aller vers une valorisation du CERF de chasse en vue de structurer sa commercialisation. La province Sud va franchir un pas de plus avec le soutien de l'État qui finance à hauteur de 50 millions de francs un projet de mise en place d'une unité mobile de traitement des carcasses de cerf chassées. Nicolas Pébaille est directeur du développement durable des territoires à la province Sud.
faut bien se rappeler le contexte, et on est avec un nuisible, le cerf, qui détruit la biodiversité de Nouvelle-Calédonie, qui détruit les parcelles et les champs des agriculteurs et des éleveurs, sur lequel on doit arriver à gérer les effectifs, voire diminuer fortement les effectifs. Ça sera aussi une source de protéines normalement à bas coût, puisque du coup, peu de charges, puisque c'est un animal de chasse, donc avec pas du tout de charges d'élevage. Donc, fort de tous ces éléments, derrière, la problématique venait du traitement des carcasses dans des bonnes conditions, et pour ça, il faut avoir des lieux avec des laboratoires, des ateliers avec un niveau d'hygiène réglementé par la DAVAR, qu'on appelle d'agrément d'hygiène simplifié. La province Sud a souhaité présenter ce projet dans le cadre du plan de relance pour amener une unité mobile de traitement de ces carcasses de chasse. On est sur une enveloppe de 50 millions, et donc la moitié de cette enveloppe revient sur les deux unités mobiles de collecte, donc qui sont des camions, forme de camion, et après le reste c'est sur la partie chambre froide et puis l'atelier de traitement. Voilà un petit peu comment ça se répartit. L'idée c'est bien de à la fois traiter un nuisible et aussi valoriser derrière cette viande sur l'aspect commercial, et donc avec de la création d'emplois au milieu, permettre aux Calédoniens d'avoir vraiment accès à cette protéine à bas coût. C'est un projet très intéressant, avec l'impulsion qu'a mis l'exécutif de la province sud là-dessus, ben, il y a vraiment un grand pas en avant. La concrétisation se fait au travers de cette unité mobile qui est financée donc à 100% par l'État.
Les formations ont déjà été lancées pour les chasseurs afin de préparer cette évolution. Une réglementation a été mise en place, avant tout pour poser les bases de l'encadrement de cette filière cerf de chasse, assurer la traçabilité de la viande, respecter le cadre sanitaire, l'hygiène et le suivi nécessaire afin de garantir la qualité de cette viande à commercialiser. L'intérêt est aujourd'hui multiple à travers ce projet porté par la province sud, avec à long terme, pour les consommateurs, une viande de qualité excellente pour la santé à un prix très attractif.
Donc il y aura deux unités mobiles de collecte des carcasses. L'idée, c'est bien d'aller au plus près du terrain, l'endroit où sont les chasseurs, l'endroit donc en brousse, l'endroit où le cerf est chassé, et de pouvoir, une fois que le cerf a été abattu, chassé, donc récupérer pour collecter ces carcasses et qu'elles soient conservées, ces animaux donc là en peau, qu'elles soient conservées dans de bonnes conditions. Et ensuite, ils seront transportés. Donc là, l'idée d'aller au plus près, donc de mutualiser aussi pour avoir s'il y a plusieurs chasseurs qui peuvent mener des actions de chasse sur la même période, ou alors des actions de chasse collectives. Donc mutualiser l'outil de collecte, et pour ensuite se diriger vers un atelier de traitement pour ensuite donc passer ces carcasses en quartier, donc avec à côté des unités de chambre froide pour toujours garder le respect des conditions sanitaires, notamment au niveau de la température, pour qu'il y ait une carcasse qui soit commercialisable dans les meilleures conditions, pour qu'ensuite elle soit valorisée ou directement par le chasseur lui-même ou par d'autres biais. Tout ça, ça sera à mettre en place un petit peu, et l'objectif c'est que cette unité mobile qui sera au plus près du terrain, on va la dédier à des gestionnaires, c'est-à-dire qu'on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour voir un petit peu quels sont les acteurs intéressés pour la gestion de cet outil. Donc derrière, ça va générer de l'emploi. L'idée, c'est d'avoir un petit peu toute une chaîne de valeur qui puisse se mettre en place aussi au niveau de la valorisation de cette carcasse, pour avoir à la fin une protéine à bas coût disponible pour les Calédoniens, et notamment après ce qu'on a subi, après les difficultés économiques qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui va venir au très bon moment, à point nommé, comme on peut le dire.
Nicolas Pébaille, directeur du développement durable des territoires à la province sud. Grâce à la somme apportée par l'État, les travaux vont pouvoir être engagés rapidement, participant également à la relance économique avec des chantiers qui vont voir le jour, tandis que ce projet d'unité de collecte et de traitement des carcasses de cerf de chasse devrait se concrétiser dès l'année prochaine.
Et après le cerf, aujourd'hui, focus demain sur le BTP. Le secteur va-t-il pouvoir relever la tête? C'est l'un des secteurs les plus touchés par les crises successives en 2025. Tous les indicateurs ont baissé. Quel est l'état du marché du BTP? Les projets financés par l'État dans le cadre du plan de reconstruction vont-ils apporter un bol d'air frais? Ce sont des questions que nous poserons demain donc à notre invité du matin à 7h30. Nous recevrons Éric Lafitte, le président de la Fédération calédonienne du BTP. Et puis, comment se porte le secteur du tourisme? Nous en parlerons demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Julie Laronde, la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme, mais aussi Eugénie Kerlot, la directrice de Sud Tourisme. Deux professionnels du secteur seront également dans nos studios. Christine Rigaud, gérante de la Cabane de la Vallée à Dumbéa, et Greg Potier, gérant de Sud Loisirs. À 17h55, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité, et notamment judiciaire, le procès en appel de Philippe Michel et Philippe Gomez.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 4020. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 4020. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 4020.
Europe 1 sur RRB, c'est les rendez-vous d'information en direct de Paris. Le regard international de Vincent Hervouette, le grand rendez-vous, la revue de presse internationale, l'interview de Laurence Ferrari. Europe 1 sur RRB, pour être les premiers informés.
Info Soir, Léo Fichou.
L'actualité judiciaire. Après Philippe Michel ce matin, Philippe Gomez est entendu cet après-midi. 5 cadres de Calédonie Ensemble sont devant la cour d'appel depuis hier pour l'affaire des contrats fictifs. Il concerne les collaborateurs wallisiens et futuniens entre 2014 et 2018. Il s'agit, Léana Colombo, de la dernière audition avant les plaidoiries et les réquisitions.
Oui Léo, c'est stylo à la main et dossier sous le bras que Philippe Gomez s'est présenté à la barre avec assurance. Tout comme Philippe Michel le matin, le fondateur de Calédonie Ensemble a été interrogé sur les différentes missions attribuées à ses collaborateurs. Qu'est-ce qui faisait d'eux des collaborateurs légitimes, a questionné la présidente. Plus de 15% de la population en Calédonie ne parle pas français. Il fallait donc des interprètes, assure Philippe Gomez. Les critères de poste étaient de parler wallisien et futunien, mais aussi d'avoir de l'autorité, précise-t-il. Concernant son rôle, au moment de l'affaire, il déclare « J'entérinais seulement une décision pour recruter ou licencier. Je ne décidais pas d'employer quelqu'un en particulier. » La réponse de la présidente ne s'est pas fait attendre. Ce qui est un peu troublant, c'est que personne ne décide de rien dans cette affaire, s'est-elle exclamée. Ces pratiques sont certes discutables, mais sont-elles un délit ? Questionne à son tour Philippe Gomez, qui confie avoir mis en place en 2016 un outil de contrôle pour s'assurer de l'assiduité de ses collaborateurs wallisiens et futuniens, qui ne se présentaient parfois pas souvent aux réunions. Une problématique soulevée également par l'avocat général Pierre-Yves Michaud, qui a souligné le manque de lien de subordination entre Calédonie Ensemble et les collaborateurs. L'audition de Philippe Gomez est toujours en cours. Les plaidoiries de la partie civile devraient tout de même se dérouler ce soir. Demain, place aux réquisitions, puis aux plaidoiries de la défense. La décision sera ensuite mise en délibéré. Depuis le palais de justice de Nouméa, Léana Colombo, RRB.
Et je rappelle qu'il y a un an, en première instance, Philippe Gomez et Philippe Michel avaient respectivement été condamnés à des peines de 4 et 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ils avaient aussi été condamnés à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Au chapitre des faits divers, l'OPT a retrouvé les poteaux électriques qui avaient été dérobés à Poum. C'était il y a quelques semaines, Jean-François Baudin.
Oui, 40 poteaux métalliques avaient été volés sur le site OPT d'Arama. L'office indique dans un communiqué que le matériel volé a été localisé grâce à une étroite collaboration entre ses équipes techniques de Koumac et la brigade de gendarmerie de Poum. Les poteaux ont donc été restitués à l'OPT, mais ils sont malheureusement inutilisables. Ils ont en effet été sectionnés et leur longueur est désormais non conforme aux normes de sécurité et d'installation en vigueur. On ne sait pas à l'heure actuelle si la gendarmerie a interpellé les auteurs de ce vol.
L'OPT qui en parallèle annonce également la généralisation de l'eSIM pour l'ensemble des offres mobiles Elia. Désormais, les clients des gammes Liberté, Prépayé, Forfait M et Forfait Objets Connectés peuvent bénéficier du support 100% numérique gratuitement. Toutes les informations sont à retrouver sur la page eSIM du site Elia.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 96% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'Espagne mérite sa deuxième étoile à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Ils ne sont que 4% à être d'un avis contraire. Notre question du jour à présent, après l'inscription au budget 2027 de la justice, des études préalables à la construction d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie, pensez-vous que le dossier de ce nouvel établissement va aller à son terme? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Après 100 jours à la tête de la mairie du Mont-d'Or, quelles actions ont été mises en place par la nouvelle équipe en place? C'est la question à laquelle a souhaité répondre la maire du Mont-d'Or, Nina Juillet, qui a dressé un bilan de ses 3 premiers mois de mandature aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Effectivement, 3 mois que les élections municipales sont passées et que les Mont-d'Oriens ont choisi leur maire, Nina Juillet. Candidate Génération Mont-d'Or, elle avait promis de gros changements aux citoyens de la 4e plus grosse commune du territoire, avec ses quelques 25 000 habitants. La sécurité et l'attractivité économique en premier plan, 12 mesures avaient été proposées. Aujourd'hui, elles ont toutes été réalisées ou mises en route, nous dit Nina Juillet.
Nous avons tenu nos engagements. C'était important pour nous, dans notre campagne électorale, d'annoncer aux Mont-d'Oriens que nous allions agir vite et concrètement, avec 12 mesures prioritaires. Et nous les avons toutes mises en œuvre, ou du moins engagées pour qu'elles soient mises en œuvre là dans les semaines qui arrivent. La commune du Mont-d'Or a besoin de retrouver des administrés et des entreprises. Donc l'ensemble, finalement, de notre programme, de nos ambitions, tourne autour de cet objectif, redonner de l'attractivité à la commune et faire en sorte que chaque personne qui vive au Mont-d'Or soit fière d'y vivre.
Sur ces 12 mesures, au moins 5 concernent la sécurité au sein de la commune. Il y a par exemple la création d'un contrat de citoyen du Mont-d'Or pour rappeler les devoirs et les droits de chacun. Il y a aussi la nouvelle réglementation sur les nuisances sonores et puis des mesures phares qui concernent le recrutement de policiers municipaux mais aussi la délinquance des mineurs, explique Yvie Poya, 3e adjointe en charge de la sécurité.
La première mesure, c'est d'augmenter l'effectif de la police municipale. Actuellement, ils sont à 35. On serait susceptible d'en recruter 5 encore. C'est compliqué. La commune n'est pas attractive. Donc, quand on lance un recrutement, très peu de gardiens répondent. Une candidature a été retenue. Un policier déjà en poste et on a pu recruter 2 gardes champêtres. Également, nous allons délibérer sur une création d'une nouvelle brigade qui s'appellera donc le service anti-délinquance pour les mineurs. Ce dispositif, c'est pour qu'on puisse avoir une réponse systématique, donc rapide, coordonnée et proportionnée lors d'incivilité.
Autre volet identifié comme prioritaire, la relance économique du Mont-d'Or. L'équipe municipale a adopté 2 mesures lors de précédents conseils municipaux. Les détails avec Frédéric Parent, premier adjoint au maire.
Le constat était que la ville était en train de se mourir, donc exode des gens, exode des travailleurs. Donc on a misé déjà dans un premier temps sur la diminution de l'impact des taxes communales. Donc on a procédé à la suppression de la TCA. Donc la taxe sur les constructions, tout ça dans un seul but, c'est de relancer l'économie. Quoi. Au lieu de payer une taxe, les gens paieront des travaux chez eux et donc feront travailler les artisans de la commune. Dans un deuxième temps, nous avons aussi fait des réductions sur tout ce qui est loyer, qui reviennent à la mairie, que ce soit au niveau du marché municipal ou des marchés ambulants. Les emplacements sont de plus en plus vides et les lieux sont désertés. Donc on fait une baisse des prix pour essayer de ramener le monde à venir sur la commune, travailler sur la commune et donc consommer moins de rien.
Au cours de ces 100 premiers jours, la maire et ses adjoints ont aussi pris des mesures en faveur de la jeunesse, comme l'aide communale annuelle de 5000 francs pour les activités extrascolaires. Ces équipes entendent poursuivre la dynamique engagée au cours des prochains mois avec des projets aussi plus ambitieux comme celui du viaduc pour désenclaver le Mont-d'Or Sud, projet pour lequel un comité consultatif a été créé. Il devrait se réunir prochainement.
Et puis signalons que le conseil municipal de Dimbéa est réuni ce soir depuis 17h30. La majorité municipale présente le plan de tranquillité de la commune ainsi que sa politique sociale. Juliette Collet vit ses derniers jours de Miss Nouvelle-Calédonie en titre. Les 8 prétendantes à la couronne se préparent pour l'élection qui aura lieu samedi soir. Élue il y a un peu plus de 10 mois, Juliette Collet était notre invitée ce matin. Nous lui avons demandé si une page se tournait pour elle.
Pas forcément, puisque tout va continuer pour moi. Hein, je n'ai pas forcément de changement, mis à part les représentations. Mais pendant mon règne, j'ai fait 3 représentations sur le territoire. Donc c'est pas ce qui me prenait le plus de temps finalement.
Vous avez fait un peu moins d'une année de Miss Nouvelle-Calédonie, oui. Puisque l'élection est un peu avancée. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours?
Ce que je retiens, c'est, je vais le dire avec mes mots, mais le sourire et la bienveillance des gens et des Calédoniens. Puisque j'ai été soutenue dès le début. Lorsque je suis partie à Miss France, il y a eu un élan d'espoir entre Calédoniens, peu importe l'âge d'ailleurs, peu importe les origines, même la situation géographique. Et ça, j'en suis fière.
Juliette Collet, interrogée ce matin par Nicolas Legrand. Elle sera évidemment présente samedi soir pour le gala qui va permettre de désigner celle qui lui succédera. Elle sera même sur scène pour un numéro de cerceau aérien. 18h05, seconde pause dans ce journal. On parlera sport, notamment juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
Du golf, tout d'abord avec des nouvelles des deux jeunes Calédoniens qui participent depuis le début de la semaine au championnat de France des moins de 12 ans, pas très loin de Lyon. Tiffen Dagorn, Leka du golf de la Wengui et Martin Rouvérol du golf de Tina se sont qualifiés pour les phases finales. Chez les filles, Tiffen disputera les 16e de finale face à Alix Germain du golf de Guérande, départ prévu à 20h30. Chez les garçons, rendez-vous dès 18h30 pour Martin Rouvérol qui affrontera toujours en 16e de finale, Jack Smith du golf de Saint-Malo. Un événement sportif sur le territoire. Cette fois, ce sera ce week-end. Une course d'orientation, le Néo-Raid Aventure. Il s'agira de la deuxième édition avec 60 équipes inscrites, soit 120 participants. Alexandra Pralon est membre du club Convergence qui organise le Néo-Raid Aventure.
C'est vrai que c'est le plus gros club de Calédonie. Il est très dynamique. Voilà, on propose des raids multisports. Donc, comme il va se passer dimanche prochain au Parc de la Rivière Bleue, le Néo-Raid, c'est une épreuve à la fois sportive et ludique. Il va y avoir des épreuves surprises, il va y avoir du vélo, enfin du VTT, de la course à pied, de l'orientation. Voilà, donc c'est assez complet, c'est très original, c'est vraiment des bons moments en équipe sur 4 heures d'épreuve.
Le Néo-Raid Aventure, ce sera donc dimanche au Parc de la Rivière Bleue. Notez que le Club Convergence propose déjà un autre rendez-vous. Ce sera le Raid Origine sur 2 jours, le week-end du 24 et 25 octobre, dans un site tenu secret jusqu'à la semaine précédant l'événement. Et puis un mot de football pour signaler que le stade Nouma Dele est fermé jusqu'à nouvel ordre. À la suite des intempéries de ces derniers jours, le terrain a subi d'importants dégâts. Il ne permet plus d'accueillir les rencontres de Super League et de Coupe de Calédonie. La 15e journée de Super League est reportée, tout comme les 8e de finale de la Coupe de Calédonie. Au chapitre éducation, mais toujours un petit peu de sport, tout de même, un tournoi qui était organisé cet après-midi à Nouméa à l'occasion du départ à la retraite du proviseur Gilles Huquet. Michael Juneski.
Une page qui se tourne au moment où le directeur du lycée La Pérouse, passé par de nombreux établissements sur le territoire, achève sa carrière et laisse ses fonctions. D'où l'idée de relancer cet après-midi la deuxième édition de ce tournoi multisport pour les internats des lycées de l'agglomération au stade du PLGC. Une émotion toute particulière pour Gilles Huquet.
Ce n'est pas sans émotions effectivement que je m'exprime là devant surtout cette jeunesse en fin de carrière. En plus, toute ma vie je l'ai consacrée à la jeunesse pendant plus de 40 ans, et donc pour terminer cette carrière avec tous ces jeunes réunis venant des différents internats, je crois que ce qui était important c'est qu'on puisse les faire rencontrer dans un autre cadre que le cadre de l'école, sur un terrain avec les valeurs du sport. Je pense que ce qui était important c'est d'envoyer un message fort à la jeunesse qu'on peut réussir. Donc c'est surtout ce message-là, et puis à travers le sport, les valeurs qui sont apportées, les valeurs du respect, les valeurs de la solidarité, de l'effort, avec un cadre. Donc c'était ça, je pense, à travers ce tournoi inter-internat, c'était aussi de transmettre un message fort à la jeunesse.
Les jeunes venus de différents établissements ont également apprécié de se retrouver à travers des tournois de foot et de volley.
Ah mais c'est net. C'est mieux que de rester à l'internat.
C'est bien organisé. Ben, le sport, le foot, on est venu pour en même temps.
Juste pour passer une journée avec les autres lycées.
On se rencontre et on peut voir aussi nos cousins dans les autres lycées. Du coup, ça fait du bien.
C'était très enrichissant et on a bien joué.
Ben, je pense que ça a été très bien passé. Enfin, on a rencontré plusieurs établissements, notamment Jules Garnier, le lycée Grand Nouméa, Escoffier et Le lapin rose, ça fait du bien.
Ben, je pense que c'est bien, comme ça on fait cohésion avec les autres lycées. Même si c'est internat, mais on fait cohésion avec tout le monde. Comme tout à l'heure, on a réussi à faire cohésion avec d'autres lycées.
Cet événement était aussi une belle occasion de promouvoir les valeurs du sport. Philippe Gian, adjoint d'éducation au lycée du Mont d'Or et responsable de l'association Gayoulaz.
C'est toujours un honneur et un bonheur d'avoir Monsieur Gilles Oukéoué. C'est l'un des premiers proviseurs Kanak. C'est un parcours exemplaire. On espère par la suite qu'il y aura d'autres jeunes qui vont le suivre. Lui, il a montré le chemin pour les petits jeunes et puis ainsi pour la population océanienne. Donc maintenant, il va falloir prendre la suite. Et puis qu'on a pu voir aujourd'hui, là, le nombre des jeunes sont très satisfaits de venir justement, car le sport c'est toujours un vecteur de mixité sociale où à travers tout ça il y a des règles à respecter. Mais ce qui est important c'est qu'on puisse partager ensemble, s'amuser ensemble autour des valeurs universelles du sport.
Et ce sont 200 jeunes qui étaient réunis cet après-midi au stade du PLGC.
Et puis il y avait de l'animation aussi au stade Pentecôte aujourd'hui à l'occasion des 40 ans de l'EGC Business School Nouvelle-Calédonie. Plus de 350 lycéens de 13 établissements du territoire étaient réunis pour la première édition de l'Arena Challenge by EGC. 8 disciplines sportives et intellectuelles étaient au programme. Objectif affiché par les élèves, passer un bon moment mais aussi gagner.
Bah, c'est bien, c'est un bon événement, comme ça on se regroupe autour du sport et puis on peut jouer quoi. Ouais, partager un bon moment et pour ça, bah, pour gagner quoi.
Bah, on fait un relais 4x100 et donc c'est répétition 5 fois genre pour nous amuser et profiter et gagner, voilà.
Alors là, la première épreuve qu'on va faire, c'est le foot à 5. On est content de participer parce que c'est le premier événement qui a été organisé de cette ampleur. Beaucoup de concurrents, donc on est confiants et on va gagner.
Nous sommes très motivés. Ben oui, on va faire du basket.
Profiter.
Plaisir avec d'autres lycées.
On s'était dit qu'on s'amuserait là entre potes pour le faire, quoi, histoire de venir au tournoi et découvrir. Mais là, pour le jeu, là, il y en a deux qui nous sont proposés. On va jouer à Overcooked. On profite un peu, on s'amuse, mais après, si on peut gagner, ça fait toujours plaisir.
La première édition de l'Arena Challenge by EGC s'est clôturée aux alentours de 16h et c'est le lycée d'Ikukewe qui s'est imposé dans la catégorie Rennes. Victoire également des lycées Blaise Pascal et Antoine Kella de Pointe-d'Imier dans les autres catégories. 18h13, place à la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune vent violent pour analyser de sud-est, soufflant encore en début de nuit autour des 25 nœuds, sur l'équivalent de 45 et 50 km/h, avec des rafales à 35 nœuds, 65 km/h sur la Calédonie, excepté sur les communes de Farino, Saraméa, Koné, Vaux, Calagomène, Poya, Pointe-Bout et Koumac, s'atténuant en seconde partie de nuit. Ça représente 25 communes sous le coup de cette vigilance. Ce soir, sur la pointe sud, le sud-est et les Loyautés, et localement sur le nord-est, le ciel est nuageux avec de rares gouttes de pluie. Ailleurs, la nuit est bien étoilée. Sur l'ouest, le vent mollit progressivement entre 10 et 15 nœuds, voire à 5 nœuds dans l'intérieur des terres. Sur la pointe nord-est, le vent de sud-est reste fort, autour de 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Sur le reste de la Calédonie, en soirée, il souffle entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de l'ordre de 30 à 35 nœuds. Et en fin de nuit, il reviendra d'est-sud-est en fléchissant entre 15 et 20 nœuds. La nuit se rafraîchit, les températures varient de 15 à 20 degrés, voire 10 à 14 degrés sur l'ouest et dans l'intérieur.
Merci Ismaël, c'est la fin de ce journal. Place tout de suite à vos rendez-vous d'Europe 1, le journal, puis l'interview. Ce soir, Pierre de Villeneuve reçoit Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République.